tatuate, les dominis, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les manques vivres, seulement en soumissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gentils vampires. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Bonsoir, et eh bien c'est l'émission Le Régor que vous retrouvez chaque semaine sur l'École des Garrigues Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien sûr Radio Primitive sur Reims. C'est Régor, une parole anarchiste communiste.
Depuis quelques semaines, éditorialistes et commentateurs s'en donnent à cœur joie à 2 euros le litre sans plomb. Pourquoi, disent-ils, ne pas donner une chance au gaz de schiste, propose le site Atlantico. Si nous autorisons la production de gaz de schiste en France, cela aurait un effet sur le prix du pétrole. Ce serait une mesure économiquement justifiée, créatrice de richesses, assure dans Challenge un spécialiste des matières premières.
Atlantico, Challenge, mais aussi Le Monde pour lequel, je cite, « on ne peut pas se plaindre de la flambée des prix de l'énergie et refuser l'exploitation des gaz de schiste au nom des menaces sur l'environnement ». Ça, c'est dans l'éditorial du 9 mars dernier. Et puis aussi, il faut repenser le mix énergétique sans tabou. Le tour est joué, le gaz de schiste devient donc un substitut au pétrole. Et le même jour, dans les échos annoncent que la compétitivité de l'industrie américaine a été relancée par cette fameuse production de gaz de schiste. Assise sur un tas d'or, la France disposerait dans son sous-sol de quoi changer profondément la donne économique des années à venir, lance un éditorialiste du quotidien économique. Alors, pourquoi s'en priver de ces gaz de schiste?
Pourquoi s'en priver? Je pense que depuis plus d'un an, on a démontré, avec le retour d'expérience aux États-Unis et au Canada, de l'hérésie de cette exploitation. D'abord, nous dire qu'on est sur un tas d'or, il faut encore le vérifier, sachant qu'on peut extraire à peu près 30 à 40% de ce qui est estimé. Et encore, c'est vraiment le maximum. Mais on sait très bien que c'est une bulle financière aussi. Les estimations sont toujours beaucoup plus grandes que la réalité et donc on nous fait miroiter des choses qui n'ont pas de sens. Sur les risques, je vous avais tous vu Gasland et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le voir parce que là, je dirais que tout est dit. Tout est dit sur les risques sur la production, la quantité d'eau qu'il faut pour la fracturation, les risques de contamination des nappes phréatiques par le process lui-même, qui est une fracturation, un forage vertical jusqu'à 2-3 000 mètres de profondeur, puis ensuite des forages horizontaux qui peuvent aller jusqu'à maintenant à 1,5 km, même jusqu'à 4 km, et chaque puits vertical peut donner lieu à ce qu'on appelle un IPAD avec un râteau au niveau horizontal de 7 à 8 forages horizontaux de chaque côté. C'est-à-dire qu'on est en train de fracturer absolument tout, même si au-dessus, au-dessus du sol, on voit qu'un forage, dessous c'est quadrillé. En général, je montre, quand je fais une animation après Gasland, je montre ça justement, comment ces iPads sont en train de défoncer tout le sous-sol. Parce qu'en fait, pourquoi on vient au gaz de schiste maintenant? Le gaz de schiste est un gaz qui est coincé dans la roche-mer. D'ailleurs, la première fracturation hydraulique qui a été faite dans notre région, à Franqueviel, dans le cadre du permis de recherche de foie, on ne parlait pas du tout de gaz de schiste, on parlait de gaz coincé. Parce qu'effectivement, les poches de gaz maintenant sont en fin de course, je dirais, dans les poches conventionnelles. Donc il ne reste que ce gaz, il ne reste dans nos sous-sols que ce gaz coincé. Donc il faut aller à entre 2 et 3 mm, plus tout le sous-sol, je vous dis, au niveau horizontal, aller ouvrir des brèches dans cette argile de schiste qui contient des bulles, en clair des bulles. Donc il faut ouvrir toutes ces bulles pour les remonter. Alors pour le faire, il faut descendre donc à cette profondeur avec des quantités d'eau pharaonique entre 10 000 et 20 000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation d'un village de 2 000 personnes par mois.
D'accord.
Donc c'est énorme, c'est 4 à 8 piscines d'eau, des piscines olympiques d'eau. Donc c'est des quantités pharaoniques. Pour arriver à cette distance de 3000 mètres, on passe à travers les aquifères, c'est-à-dire autour de... tous les aquifères, ce sont les nappes phréatiques qu'il y a entre 100 et 500 mètres. On traverse ces nappes, inévitablement. Donc il y a des risques, et là on l'a su, le film Gasland le montre bien, que on peut avoir on a des contaminations des nappes et des puits.
Parce qu'il y a tout un tas de produits chimiques qui sont utilisés.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, parce que pour tenir ces bulles ouvertes, il faut non seulement de l'eau, mais il faut aussi du sable, des quantités aussi énormes de sable, entre 800 et presque 1000 mètres cubes de sable, plus des produits chimiques. Aux États-Unis, on a évalué entre 500 et 600 produits chimiques différents.
Donc ces produits chimiques traversent les nappes phréatiques?
Normalement, elles ne doivent pas les traverser parce qu'elles sont envoyées par un tube. Un tube qui ne doit pas avoir de soudure, parce que la moindre soudure, et d'ailleurs tous les problèmes qu'il y a eu aux États-Unis sont dus à un très mauvais tubage de ces puits.
Mais on peut pas avoir un tube qui fait 2 km ou 3 km, donc on est obligé de rajouter des
voilà,
des morceaux, en fait.
Avec mais on peut le faire normalement, ils nous disent qu'ils peuvent le faire. Et puis à la France, ça fera bien mieux qu'aux États-Unis,
c'est
bien
clair,
entendu,
c'est clair,
on
ça paraît évident.
Fera tout bien propre, bien clair, il n'y en aura pas d'histoire. Seulement l'histoire elle existe depuis plus de 20 ans aux États-Unis, et en particulier ces 10 dernières années où on a foré quand même 500 000 puits au niveau des États-Unis. Même au Québec, et c'est le Québec qui nous a le plus alerté, puisqu'eux, ils en étaient encore à la phase exploratoire, et sur 31 puits qu'ils avaient évalués, il y en avait 19 qui fuyaient du méthane, parce que ce qu'on ressort, ce gaz, c'est du méthane. Donc le méthane, c'est quand même un gaz qui est 21 fois plus toxique pour l'environnement que le CO2. Donc toutes les fuites, et ça on peut pas éviter les fuites, il y a toujours des fuites. Donc on a des fuites de méthane qui font qu'au-dessus de ces lieux d'exploitation, on a des gaz comme si on était dans au-dessus d'une ville de 700 à 800 000 habitants, un smog de gaz toxique pour l'air. de cet ordre-là.
Et c'est ce qui fait aussi qu'on voit, enfin, il y a des scènes assez impressionnantes dans Casland où on voit les gens qui arrivent à mettre le feu à leur robinet à l'évier.
Voilà, parce qu'il faut
ouvrir l'eau et puis avec et ça s'enflamme.
Absolument. Et mais le gaz peut sortir par toutes les failles autour de ces puits. Parce que quand on bouge la terre, d'ailleurs, ce qu'on voit depuis un an maintenant, c'est tous les problèmes sismiques qui ont eu lieu. Il y a quand même des retours d'expérience qui montrent que il y a des phénomènes sismiques importants. Il y a même l'État comme l'Arkansas où ils ont été obligés d'arrêter parce qu'on produisait des séismes jusqu'à 4 et 4,5 sur l'échelle de Richter, ce qui n'est pas rien. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on a aussi arrêté un forage parce qu'il provoquait des séismes importants. D'accord. Un séisme, ça veut dire qu'on bouge. On bouge le sous-sol, on recrée des fractures au niveau des sous-sols, et le gaz ne demande qu'une chose, c'est de remonter. Même s'il ne fait pas tout de suite, il le fera. Dans 20 ans, 30 ans, il va continuer. Donc on ne peut pas dire que même si on ferme un puits maintenant, il n'y aura pas de risque après, parce que le sous-sol aura été complètement fragmenté. Donc dans tous les cas, on sait qu'il y a ces risques-là.
Comment on est arrivé à... je crois que c'est l'année dernière où en fait les gaz de schiste sont arrivés sur le devant de la scène. Comment on est arrivé en France à ce que des sociétés comme ExxonMobil, enfin c'est que les gros pétroliers, hein, les Total, etc., ont commencé à essayer de vouloir mettre la main sur ce tas d'or, comme disent ces éditorialistes. Historiquement, ça remonte à un an ou deux, je crois.
Voilà, ce qui a été mis en lumière fin 2010, c'est qu'on a donné des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures liquide ou gazeux. Il faut bien donner tout le contexte. C'est permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
D'accord.
Donc, quand, et là, on en a donné à l'appel. On en a donné d'un coup. Borloo a donné ses permis parce que, effectivement, aux États-Unis, la production de gaz de schiste a été très importante et ils deviennent pratiquement autonomes au niveau de leur production de gaz. Donc les pétroliers qui ont, surtout les Américains, parce qu'aucun pétrolier français n'a la technique. Il n'y a que les Américains qui savent faire ça.
D'accord.
Il ne faut pas croire qu'on a une indépendance ni de nos techniques. Ils sont obligés de s'adosser aux techniques de fracturation. D'ailleurs, en Pologne, puisque ça, il y en existe aussi en Pologne, on voit Halliburton sur les casaques des gens qui travaillent. Ah, c'est pas n'importe qui. D'accord. Et d'ailleurs, tous les permis qui ont été donnés s'appuient sur des pétroliers qui ne sont pas français. Même Total est adossé à des pétroliers américains.
C'est important de le rappeler, puisque justement l'Union française des industries pétrolières, l'UFIP, dans un récent communiqué, disait, elle, toute sa volonté de développer le gaz de schiste, encore une fois, pour réduire notre dépendance énergétique.
Mais ça, c'est une fumisterie. Vu la quantité de gaz qu'on utilise, la part qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait ressortir, est infime par rapport au risque qu'encourent nos territoires. Parce que c'est pas seulement les problèmes de l'eau, c'est pas seulement les problèmes de l'air, c'est les problèmes aussi de toute l'infrastructure qu'il faut mettre en place. C'est quand même un forage, c'est 2 hectares qui sont neutralisés, plus toutes les routes qu'il faut pour y amener. C'est des camions énormes, donc la plupart des routes ne sont pas faites pour ça. C'est un balai incessant de camions, c'est entre 500 et 1000 camions pour les fracturations, plus on transporte l'air, plus il faut mettre en place des zones de remontée de ces eaux de fracturation qui sont contaminées, même si elles en remontent qu'entre 40 et 50%, le reste dans les sous-sols, donc contamine, mais ce qui ressort est contaminé. Il faut voir ce qu'on appelle des lagunes, donc des bassins de rétention, mais il faut aussi, après, ressortir cette eau, la faire traiter. Enfin, c'est pas possible de penser ça, de penser qu'on puisse le faire pour une part infime. On arriverait, si on savait exploiter nos sous-sols, on arriverait à peine à 11% du gaz qui tout serait nécessaire. 11%, sachant que la part du gaz est faible dans le mix énergétique. Mmh. Alors, nous raconter ça, depuis plus de 10 ans que les États-Unis font cette recherche à fond, sans arrêt. Si vous avez vu le film Gaslamp, c'est des trous partout, quoi. Mmh. C'est des trous tous les kilomètres et demi. Parce qu'il faut voir quand même que ce gaz, il est en très faible quantité. Donc, ce n'est pas comme une exploitation conventionnelle sur une poche de gaz qui dure entre 30 et 50 ans. Là, tous les 5 ans, il n'y a plus de gaz. Il faut aller plus loin. Donc, il faut faire des trous. Plus on fait de trous, plus c'est la seule façon de pouvoir exploiter vraiment. Donc, depuis plus de 10 ans aux États-Unis, il y a cette consommation. Sur le mix global au niveau de l'énergie, on a à peine bouger de 0,1% de la quantité d'énergie qu'il nous faut. Donc, imaginez qu'en France, on va être indépendant. En plus, le gaz, il ne fait pas rouler les voitures. Hein. Mmh. Donc,
pas pour le moment. Mais donc, fin 2010, on a ces permis qui sont attribués un petit peu par grosse quantité, à gros bouillon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, les associations prennent conscience.
Les associations prennent conscience. CAP 21 avec Corinne Lepage avait déjà fait un dossier. José Bové s'est emparé du sujet. Un premier travail, une première réunion d'association dont les Amis de la Terre s'est tenue à Saint-Jean-du-Bruel le 21 décembre, je crois, de cet ordre-là. Et donc, on a repris les choses en main parce qu'on s'est rendu compte que nous, en région, on avait quand même des permis qui nous concernaient. D'une part, le permis de Nantes qui avait déjà été attribué, qui concerne la partie est de l'Aveyron, plus des permis qui avaient été instruits, dont le permis de Cahors, qui fait quand même 5 700 km², plus des permis qui étaient en attente d'instruction. Donc, il était... Quand on sait, de toute façon, quand on commence à travailler sur le sujet, on a très vite compris ce qui se passe. Tous les collectifs qui se sont créés après, dans l'espace de 15 jours, ils savent tout ce qui se passe sur le. Puis on a tout sur Internet, on se passe les informations, on sait de quoi on parle. Donc ces collectifs se sont mis en place. Moi, à Toulouse, j'ai fait une première réunion le 19 janvier, et dans les questions qui étaient posées, dit mais chez nous, comment ça se passe? Parce qu'on avait le film Gaslamp. Et on n'est pas tout à fait dans la même logique, puisque là-bas, aux États-Unis, le sous-sol appartient au propriétaire du terrain qui est au-dessus. En France, c'est pas du tout ça. Le sous-sol, à partir de 10 mètres de profondeur, appartient à l'État. Donc si l'État décide que c'est une ressource stratégique, il peut très bien décider de rentrer sur un terrain, même si vous n'êtes pas d'accord.
D'exproprier du coup les propriétaires de la surface.
Il n'y a même pas besoin d'exproprier, il suffit de négocier les prix, louer les terres, c'est toujours possible. Le code minier, alors on ne comprenait pas très bien comment ça se passait le code minier. En fait, lors quand les permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures sont alloués, enfin sont attribués, c'est bien un permis exclusif. C'est-à-dire que l'industriel qui a déposé ce permis est chez lui, dans tout le sous-sol. Donc 5 000, le Beaumont de Lomagne dont on parlera sûrement tout à l'heure, c'est 10 500 km². Ouais, ouais. Donc c'est énorme. Si vous regardez la carte, là malheureusement je ne peux pas vous la montrer, mais elle est accessible sur Internet, c'est pratiquement, pour notre région, c'est plus de 16 000 km² qui sont concernés par les permis. Donc ils sont chez eux pendant la durée de validité du permis. Un permis est valable en fonction de ce que demande le pétitionnaire. Par exemple, pour le permis de Cahors, c'est 3 ans, renouvelable 3 fois. Pour le Beaumont de Lomagne, normalement, c'est 5 ans, renouvelable 3 fois. C'est-à-dire que pendant entre 3 et 15 ans, ils sont chez eux. Ils sont chez eux.
Ils font ce qu'ils veulent, ils ont quand même des contreparties.
Comme ils ne sont qu'en phase exploratoire, ils n'ont à avertir que le maire le jour où ils vont rentrer sur les terrains, parce que quand même il va falloir qu'ils disent qu'ils vont arriver avec des camions et qu'ils vont faire du bruit et qu'ils vont piquer de l'eau et que voilà.
Que le jour même quelques jours.
Pratiquement, ils vont informer qu'ils vont commencer les travaux. Et là, peuvent éventuellement se... Et encore, c'est uniquement une mise à disposition de l'information du maire qui lui fera l'affichage pendant un mois dans les mairies.
D'accord.
Il n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir.
C'est pour ça que certains maires ont pris des arrêtés municipaux pour interdire le passage de gros poids lourds sur leur commune.
Ils ne peuvent pas dire qu'ils interdisent l'exploration parce que c'est l'État qui décide.
D'accord.
Ils peuvent éventuellement interdire certains travaux parce que ça va faire des nuisances. Donc ils ont très peu de pouvoir. Très très peu de pouvoir. Si l'État décide que c'est important stratégiquement, il fera tout pour exproprier si la personne sur le terrain duquel on va être ou sur la commune, il fera tout pour l'exproprier ou négocier avec la compagnie de façon assez largement, comme ça on le voit dans le film Gasland, pour faire taire les gens et pour leur donner un intérêt à ce qu'on fasse tous ces dégâts.
Mais pourtant, la mobilisation qui a eu lieu donc à partir de janvier 2011 a quand même freiné un petit peu les ardeurs de ces industriels et même du gouvernement. Il y a eu un coup de frein on est arrivé ensuite sur la loi de juillet 2011. Donc entre cette mobilisation, à un moment donné, il y a eu un coup de frein quand même.
Heureusement, je dirais qu'on a fait toute cette mobilisation. Moi, juste pour le permis de Cahors, moi j'étais allée dès le 9 février à Cahors pour expliquer ce que c'était. C'est que c'était chez nous. Le code minier, parce que tout le monde avait vu Gasland, et les collectifs se sont... On en a plus de 250 actuellement de collectifs anti-gaz de schiste sur la France. Mm-hmm. Pratiquement toutes les communes du Lot ont leur collectif. Maintenant, ça commence à être le cas pour la partie du Lot et Garonne avec le permis de Bonne-Lomagne. Tout le Sud-Est a je ne sais combien de collectifs, la partie Nord aussi. Donc, effectivement, heureusement qu'il y a eu ces mobilisations. La première manifestation, c'était le 26 février. C'était à Villeneuve de Berg, justement. Et là, il y avait quand même entre 15 et 20 000 personnes. Donc, ça, sur le Cahors, c'était le 17 mars 2011, mais il y avait déjà eu des contestations quand Nathalie Kosciusko-Morizet était venue. Donc, beaucoup déjà de gens qui avaient. On avait écrit. On s'était bien relayé pour écrire au ministère en disant mais c'est la folie ce que vous voulez faire. C'est quand on voit le permis de Cahors, il est sur le Grand Causse, sur des zones extrêmement fragiles sur le plan géologique, sur des Grands Causses qui sont un parc naturel, avec une économie de tourisme et agricole qui est quand même importante. Vous voyez, Frédéric, vous avez vu les images de Gasland avec ce que ça donne. C'est de la folie, c'est de la folie. Pourquoi faire pour... pour rendre heureux les pétroliers.
Oui, toujours.
Ah, pour plein de choses.
Mais, n'empêche que le gouvernement fait mine de reculer et donc pense cette loi du 13 juillet 2011 qui, à défaut de régler définitivement le problème, enfin d'annuler ces permis-là, en tout cas, fait redescendre la dynamique qui s'était enclenchée après justement ces annonces de fin 2010.
Alors, on savait très bien qu'ils allaient nous contourner parce que quand la mission du gouvernement a été nommée, qu'est-ce qu'elle disait cette mission ? Il fallait d'abord s'occuper de savoir si on avait du gaz chez nous, donc la partie énergétique. D'autre part, savoir si les techniques étaient possibles et s'il y en avait des propres. On sait très bien que ça n'existe pas. D'autre part, si ça allait être acceptable pour nous. Donc, c'est la mission a été rendue en juillet. Mais parallèlement, les élus avaient proposé une loi contre la fracturation hydraulique. Mais c'est presque dommage parce qu'il faut quand même savoir que même le conventionnel, un forage de conventionnel, c'est à peu près la même chose, sauf la ressource en eau, mais ça a les mêmes conséquences. Il faut des camions, on le voit sur les forages de lac, hein, c'est pas innocent. Donc même si dans les permis qui sont octroyés on fait du conventionnel, ce sera quand même des nuisances de camions, enfin à peu près tout, sauf là pour la ressource en eau. Mais on sait très bien qu'il y a des forages conventionnels qui ont contaminé des nappes. Bon, je rentre pas dans le détail parce que j'en ai un mètre cube de papier, mais on le sait aussi, ça fait la même chose. Alors, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que la fracturation hydraulique est interdite, mais ce que les pétroliers ont réussi à passer après, quand la loi a été définitivement adoptée, c'est qu'on fasse des recherches scientifiques pour savoir si on pouvait faire de la fracturation hydraulique propre.
En gros, c'est interdit, mais on vous autorise, à titre d'expérimentation, de pouvoir utiliser tel endroit, enfin, d'avoir tel permis pour pouvoir un petit peu faire vos recherches dans tel endroit.
Les permis, ceux qui sont accordés, ils y sont. Peuvent faire des recherches. Bon, il faudra qu'ils déclarent qu'ils vont faire la recherche, mais ils peuvent les faire où ils veulent.
D'accord.
Ils sont chez eux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut bien se rendre compte de ça.
Donc il y a eu toute une série de permis qui ont été suspendus en revanche.
Oh, pas toute une série, il n'y en a que 3.
Ah oui, d'accord.
Sur 64.
Ah oui.
Donc c'est très peu.
D'accord.
Ils les ont suspendus à l'endroit où la contestation a été le plus important. Et là, pourquoi on s'est remis en bataille déjà cette année? C'est que d'une part on savait que ça allait être ça. On avait déjà lu le premier rapport initial du gouvernement. Le deuxième rapport est sorti le 21 mars, mais depuis début mars, on savait que l'instruction des permis qui était en cours avait redémarré. Moi, je fais une veille au niveau de Dréal, Midi-Pyrénées, pour savoir où en sont tous ces permis, ceux qui seront en cours. Et le 14 mars, on me dit, les permis, on recommence, on les met à l'instruction. Le permis de Romans de Lomagne, un permis de Mirande dont on n'a pas encore la cartographie. On a renouvelé des permis qui sont ici en 2012. On a renouvelé les permis et celui-ci manque que la signature, celui de Cahors, il ne manque que la signature du ministère. Tout est relancé juste avant les élections actuelles pour que on balise les sols. Parce que c'est très difficile une fois que le permis a été accordé, c'est très difficile de l'enlever. D'ailleurs, le permis de Montélimar qui avait été accordé à Total. Total est au tribunal pour contester cette suppression de permis.
Et ce permis de Montélimar, donc ça s'étend de Valence à Montpellier et ça inclut notamment le parc national des Cévennes dans leur zone.
Voilà. Donc vous voyez que c'est et donc ça peut être contesté. Il va falloir que l'État bataille pour justifier qu'elle a supprimé ce permis.
En fait, il y a beaucoup de permis, beaucoup de pétroliers qui ont déposé un recours soit devant les tribunaux administratifs, en tout cas qui bataillent justement
sur ces trois permis. Les deux pétroliers qui étaient en place l'ont fait.
D'accord.
Celui de permis de Nantes. Et le permis de Nantes, je crois que c'est pas sur celui-là qu'il le contestait, ça devait être l'autre petit permis qui est là.
Mais
sur les trois permis, ils ont été contestés tous. Les permis abrogés sont devant les tribunaux. Donc là, on sent bien qu'avant les élections, on voulait quadriller pour que les pétroliers, à un moment donné, quand on va supposer que la fracturation hydraulique est moins toxique que ce qu'on avait dit, ils sont chez eux. Donc à tout moment, ils pourront le faire. D'ailleurs, c'est tellement bien que ce matin même, avant de venir, j'ai retéléphoné à l'Adréal. C'est barrage total actuellement, on ne dit plus rien. Mais bon.
L'Adréal, juste pour les auditeurs auditrices, c'est la direction régionale, c'est l'émanation du ministère de l'Industrie, de l'Environnement au niveau régional.
De l'environnement.
Ça dépend de la préfecture, c'est un peu la même.
Et ce matin, j'ai su, pas chez eux, mais par le conseil général de la Haute-Garonne, que les permis sont instruits, qu'il faut qu'ils les rendent début mai pour les permis de Beaumont de Lomagne et les permis qui sont en cours. L'instruction est finie. La première instruction, de toute façon, c'est pratiquement rien. Il suffit que l'industriel montre qu'il a la capacité financière et technique pour aller sur le terrain. C'est tout. On contrôle rien. On ne sait pas encore. Comme la fracturation hydraulique a été interdite, il va dire qu'il va faire du conventionnel. Mais on n'en sait rien. Il sera chez lui et il pourra toujours dire qu'il fait de la recherche.
Et vous savez à qui sont attribués donc ces permis?
De toute façon, le pétitionnaire est connu, puisqu'il dépose un permis. Pour le permis de de Cahors, c'est le permis de... Alors, le permis de Cahors, c'est... c'est Swilex, donc c'est une entreprise qui a son assise financière dans des îles, je ne sais pas trop où.
Ah oui.
Enfin voilà. Mm-hmm. Pour le permis de Beaumont de Lomagne, c'est BNK, c'est un truc australien, on ne sait pas trop d'où ça sort. Pour le nouveau permis de Mirande, c'est aussi un truc comme ça. Enfin bon, c'est.
Ouais.
Voilà.
C'est intéressant, toujours pareil, à souligner par rapport à cette dépendance énergique.
Voilà, mais c'est de faire confiance à des entreprises là, qui ont les sièges sociaux dans des paradis fiscaux, donc on ne sait pas trop, mais on sait qu'en tout cas, ils vont ramener de l'argent, parce que c'est ça qui est... C'est un peu ce qu'on disait au début, là, Cécile, là, cette histoire de carburant à 2 euros. C'est marrant comme c'est présenté super simplement par les médias, quoi, de dire, ah ben oui, soit on veut un carburant très cher, soit on choisit un petit peu le gaz de schiste, alors que c'est pas du tout ça qui est vraiment un jeu derrière. On pourrait peut-être faire une petite pause musicale et revenir tout de suite dessus, notamment avec les permis dans le coin qui nous intéressent.
Money makes the world go around, it makes the world go round. Mark a yen, a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Nous sommes toujours sur le 92.2 MHz. L'émission, c'est sur le front du lundi dans le cadre du magazine. Pour communiquer avec nous, c'est toujours les mêmes numéros de téléphone, 05 61 53 36 95. Et je vous rappelle que vous êtes sur le 92.2 MHz, sur Canal Sud. On est en train de parler donc gaz de schiste et notamment des permis en voie d'être accordés ou déjà accordés. Enfin, on ne sait pas trop. On saura ça
à l'instruction.
À l'instruction, mais bon, si ça se trouve déjà ratifié par le préfet. Et donc, on est sur le permis de Beaumont de de Lomagne. Donc Beaumont de Lomagne, à moins ceux qui habitent à côté, ça ne dit pas grand chose. Mais quand on regarde toute l'ampleur de ce projet, donc parce que en fait la tête de pont, entre guillemets, le haut de l'iceberg serait à Beaumont de Lomagne, mais ensuite toutes les ratifications seraient aux alentours. C'est ça là que vous nous expliquez là tout à l'heure.
Oh, le Beaumont de Lomagne, c'est parce que c'est presque au centre de la carte. Mais ça concerne la Dordogne, la moitié du Lot-et-Garonne, ça inclut Agen et Auch dans le Gers, ça va pratiquement jusqu'au nord de Saint-Gaudens, ça contourne Toulouse à Saint-Jory et
la Salvetat-Saint-Gilles, les Guevins.
Voilà, et ça inclut aussi Montauban et ce qui restait du Lot, qui était déjà concerné par le permis de Cahors et qui est repris dans toute la partie haute, le Tarn-et-Garonne.
Il y a le Quercy aussi, ouais, l'Auzerte,
c'est tout ça. L'Auzerte, c'est vraiment, voilà. En gros, ça fait Carbone.
C'est 8 départements. 8 départements. Donc, ça, c'est le plus grand permis de déposé, c'est le plus vaste permis déposé en France. Donc, Beaumont de Lomagne, c'est un peu pour ne pas perturber les gens, parce que si on avait dit Cahors, ou Cahors encore, on le comprend, mais si on avait dit Agen ou Montauban, ça aurait fait peur. Mais dans le permis, c'est Agen et Montauban et Auch sont inclus. Et on contourne juste à quelques kilomètres l'agglomération toulousaine.
Mais ce que je comprends pas bien, c'est que le permis, il autorise donc l'industriel en question à forer sur toute cette zone-là.
Absolument. Il est chez lui.
En sous-sol, c'est ça ?
En sous-sol.
Tout le sous-sol lui appartient.
Mais pour aller en sous-sol, il faut faire des trous dessus. Donc les plateformes de forage, il faut les mettre en place. Et quand on étudie le dossier au niveau américain, ils vous disent mais on sait faire maintenant, on peut aller même sous les églises, parce qu'avec le forage horizontal, on peut aller beaucoup plus loin. Donc tout est possible.
D'accord. C'est permis. Donc il y a celui-là. Il y a également le permis de Mirande. C'est pas le même, ça. Mirande, c'est plutôt.
Alors celui de Mirande, il est apparu le 14 mars 2012 quand j'ai interrogé les services de l'Adréal. Mais on n'a pas encore la cartographie. Donc normalement, il s'en casse. Il est plus dans le Gers et il va un peu parasiter celui de Beaumont de Lomagne. D'ailleurs, il y aura une compétition puisque il y a toujours une compétition, on met en compétition les compétiteurs, donc ceux qui veulent, pour savoir à qui on l'attribue. Alors, et quelle zone on attribue à qui.
Là, c'est marrant parce que quand on va aller chercher du gaz, évidemment, en creusant des milliers là, de mètres, on va tomber sur d'autres choses. On peut tomber, par exemple, c'est ce que dit le président du conseil général de l'Aquitaine, enfin de l'Aquitaine de, comment on appelle ça, du côté de Bordeaux, merci de m'aider.
De Gironde,
merci. Ah oui, voilà. Je vois tout le monde me suit, c'est bien. Donc voilà, Philippe Martin qui dit qu'en fait, le fameux permis de Mirande n'est qu'un leurre destiné à masquer le véritable intérêt d'une obscure entreprise australienne pour ce coin de France, parce que pour eux, disent-ils, derrière le gaz, il y a de l'or, et pas qu'un peu. Alors d'après un rapport que c'est qu'a soi-disant le Sud-Ouest entre ses mains, les relevés de la sonde April, puisqu'il y a déjà une sonde qui a été balancée là-dedans, en opération spéciale depuis le mois d'avril 2011, ont enregistré des taux de quartz aurifère de l'ordre de 5%. Et en fait, ce qui intéresserait autant cette entreprise canadienne, c'est l'or qu'on pourrait trouver, si on ne trouve pas forcément beaucoup de gaz, en tout cas, peut-être qu'on pourrait mettre à jour. Donc c'est marrant, on va se retrouver avec plein de chercheurs, enfin plein de charlatans
qui
vont venir...
Ah oui, c'est la rue vers l'or. L'or du gaz de schiste. Enfin, si c'était pas triste, on en rirait, parce que c'est un peu n'importe quoi. Mais de toute façon, ce permis de Mirande, si vous connaissez ce qui se passe autour de Lac, il va être associé à Lac. D'ailleurs, les permis de Foix, les permis de Val, attendez, je regarde mes notes. C'est les permis de Côte de Gascogne et les permis Tarbes Val d'Adour sont déjà dans ce périmètre et ils ont été reconduits. Donc ça va faire la jonction avec le gaz de Lac. Pourquoi c'est intéressant pour un pétrolier ? C'est qu'il y a déjà toute l'infrastructure de transport de gaz, de gazoduc, qui aura juste à tirer des tuyaux en plus. Et si vous faites la jonction, tout ça peut être relié. Donc, il faut quand même savoir qu'il faut le transporter, ce gaz. On ne l'injecte pas comme ça directement dans les réseaux. Donc, c'est aussi des infrastructures qui vont impacter nos territoires, si ça se met en place.
Oui.
Bah, non, juste pour revenir, donc si je comprends bien, l'État qui est propriétaire du sous-sol décide de donner des permis à des industriels qui du coup peuvent faire ce qu'ils veulent dans ces sous-sols, en faire du gruyère sur des surfaces pouvant, pour ce qui nous intéresse dans la région, couvrir jusqu'à 8 départements. Et est-ce qu'il y a du contrôle? Est-ce qu'il y a comment ça se passe?
Alors là, c'est très drôle parce que l'étude qui a été menée par le ministère dit bien que en France, on n'a pas, on sait plus faire. Donc il faut former les gens, il faut former les industriels, mais il faut aussi former les contrôleurs parce qu'il n'y a plus personne qui sait le faire. Et en janvier 2011, quand j'étais allée voir la DREAL pour qu'elle m'explique ce qu'était le code minier, je leur ai posé la question, mais qui va contrôler ça? Elle me dit, oh mais on va nous former. Donc pour l'instant, il n'y a même pas le potentiel de contrôleurs suffisant parce que d'une part il n'y en a pas assez, mais en plus ils ne sont pas formés ni assez techniques, ni. Donc on est dans le flou plus total et bon, comme toujours, on est des apprentis sorciers et nous les Français on fera mieux que les autres. Alors cette fois-ci on va peut-être s'associer avec les Polonais parce qu'ils sont moins pointilleux que nous et ils ont déjà autorisé les forages. Mais ce que l'on sait déjà aussi en Pologne, c'est que sur les quantités qui étaient prédites, qui étaient entre 3 et 4 milliards de mètres cubes de gaz, on est vraiment à la baisse, on est entre 300 et 500 000. Ça a complètement changé de proportion. Donc c'est déjà beaucoup moins intéressant. Alors eux, comme ils vont essayer, donc on va essayer de s'associer avec eux. C'est exactement ce qui est dans le rapport. Ce rapport était extrêmement instructif. Il dit bien, d'une part, qu'on ne connaît pas les techniques, qu'on n'a pas les compétences, que de toute façon, au niveau de l'emploi, ce sera quelques centaines d'emplois éventuellement pour les hôteliers, parce que de toute façon, les techniques, on ne les connaît pas, donc il faut faire venir des gens, même des Américains. Et d'autre part, c'est ponctuel. C'est très peu dans le temps. Alors que les nuisances, c'est irréversible. Ce sera à tout jamais. Alors bien sûr, la partie d'exploration prend 2 hectares, mais après, si on exploite, on réduit quand même. On va essayer de faire ça, de mettre ça sur moins de surface. À Franquevielle, ça a été le cas, puisqu'on a eu la fracturation hydraulique en 2007. Alors pendant tout ce temps, il faut savoir que ça rapporte 0 € à l'État, puisque ne sont taxés qu'une part de l'exploitation, une part de ce qui est extrait. Dans les petites parts, si on n'extrait pas beaucoup, on paye 0 de taxes. Mais n'empêche que sur le territoire, on a toutes les nuisances. Et sur Franquevielle, ça a duré plus d'un an, 2 ans de travaux, plus d'un an d'exploitation, avec des bruits nuit et jour, des éclairages comme on le voit dans le film Gasland. C'est des plateformes pétrolières. Faut bien se rendre compte que c'est ça. Et bon, après, on a vu que ça rendait pas grand-chose. Il y a eu quand même une torchère pendant un moment, et on a rebouché. Reboucher un puits, c'est pas rien. Et dans le dossier du ministère, on dit bien qu'il faudra peut-être commencer à rédiger un autre texte pour la fermeture des puits, pour qu'on soit bien sûr. Moi, j'avais posé la question, comment on avait fermé les puits de Franquevielle. L'Adréal m'avait répondu, en mettant de bouchons de ciment, en mettant de quantité. Il faut que les tubes qui sont dedans soient cimentés, parce que sinon, le gaz peut remonter, même faiblement, mais il peut remonter. Mais dans la réglementation, il n'a encore prévu aucune mesure de la qualité de l'eau. On fait aucune vérification si les nappes aquifères ont été touchées ou pas. Et j'ai reposé la question, me dit, ah oui, peut-être que dans la réglementation, il faudra qu'on voit de faire des mesures quand même de suivi de nappes.
D'accord.
Donc vous voyez dans quel flou on est et comment on se lance dans quelque chose d'énorme, avec un impact énorme pour nos territoires. C'est nos territoires, c'est chez nous, c'est notre terre, c'est notre environnement.
Au niveau des... parce que bon, on sait très bien, enfin, je crois que Sarkozy s'est prononcé contre la fracturation hydraulique, enfin, ou plutôt pour des méthodes respectueuses de l'environnement, donc pour aller chercher ce gaz de schiste là au fin fond du fin fond, sauf que cette technique n'existe pas, donc c'est vite vu. Et François Hollande, lui, est resté dans le flou, quoi. C'est-à-dire qu'il a dit oui, il faudra faire attention. Enfin, voilà, grosso modo, il n'y a pas de vraie réponse claire et nette. On sent que c'est vraiment... voilà, on ne sait pas du tout comment ça va tourner au sommet de l'État. Enfin, si, a priori, vu qu'il y a un enjeu industriel derrière, on ne sait pas si le prochain président dira oui ou non. Donc, du coup, sur le terrain, comment ça s'organise? Quels sont les... c'est des collectifs qui se sont montés. C'est un maire, je crois que c'est Chivardi, hein, je le disais tout à l'heure, hein, qui sur le maire de Mayac, Chivardi, qui a proposé dans un premier temps de faire voter par son conseil municipal un arrêté. Tout véhicule supérieur à 3,5 tonnes est interdit sur toutes les voies autres que les routes départementales et nationales hors engin agricole, pour justement essayer, entre guillemets, de surveiller ces gros camions mines là, un petit peu là, qui risquent de traverser le territoire pour essayer de venir voilà, se poser à un endroit. Mais sinon, comment ça s'organise?
Alors, ça, c'est les élus qui peuvent le faire. Donc, le collectif national donne des instructions plus ou moins aux maires, justement, sur les possibilités qu'elles ont de contrer ces projets. Mais il y a aussi, je pense que c'est ce qui a arrêté la machine l'année dernière, c'est la population. Combien on est dans la rue? Non, ça, il n'y a rien à faire. Chaque fois que vous montez quelque chose, c'est combien vous êtes dans la rue. Et là, les collectifs se montent et eux-mêmes, les collectifs même se mettent en place des relais pour bien savoir quel type de camion et être en surveillance, être en connexion pour donner l'alerte. De toute façon, les collectifs continuent à faire du lobbying auprès des élus en disant, mais attendez, vous n'allez pas laisser faire, il faut que vous preniez des arrêtés, etc. Donc, je crois que là, d'ailleurs, si la mobilisation a bien réussi l'année dernière, c'est pas, il n'y avait pas seulement la population, mais il y avait aussi les élus. Et les élus, eux, ils sont sur leur territoire, ils savent ce qui se passe. Donc, avec eux, on peut arriver à quelque chose d'important. Donc, on est en alerte, évidemment, et tous les collectifs se mettent en place. La dernière manifestation qui a eu lieu a été montée en l'espace de 15 jours, même pas. Moi, j'ai donné l'alerte en disant les permis de mouvement de l'Auvergne sont repartis à l'instruction. Les gens du Lot-et-Garonne sont partis en bataille. Ils ont monté avec d'autres collectifs la manifestation qui a lieu. C'était le jour de la manifestation Occitane. On était moins visibles, mais on était quand même plus de 300, ce qui n'était pas rien à Toulouse, parce que les gens à Toulouse ne se sentent pas concernés pour beaucoup. Si alors, c'était dans leur jardin, oui, peut-être qu'ils s'inquiétaient.
Ça va se passer aux portes de Toulouse.
C'est quand même les portes de Toulouse. Et puis, globalement, si on a un peu de conscience écologique ou citoyenne, on sait bien que ça n'a pas de sens de faire ça. Mais déjà, ce jour-là, en 15 jours, on était 300. Donc, c'est pas rien. Mmh. Et les collectifs continuent à bouger. Le fait que le Lot-et-Garonne ait beaucoup bougé, le conseil général du Lot-et-Garonne et du Gers ont missionné des missions d'information et de surveillance. Ils vont auditionner des experts, ils vont continuer à comprendre comment ça se passe, quoi. Là, j'ai toujours un petit doute parce qu'il y a toujours les experts qui vont dire, comme nous disent nos élites, mais nous, on va faire ça très bien. Donc ça, c'est le risque. Et là, le rapport de la mission donc de l'État montre bien qu'il n'y a pas d'autre technique. Il n'y a pas d'autre technique
que la fracturation hydraulique.
Il y a la fracturation au propane, mais c'est pire parce que le propane est inflammable, donc les risques, ça peut péter de partout. Déjà que les puits explosent. Mais là, c'est encore pire. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont en recherche, mais qui sont absolument pas... De toute façon, on l'a bien vu. En décembre, l'association des foreurs a lancé le débat avec une contre-pétition pour le gaz de schiste, en disant mais il n'existe pas d'autre technique. On sait très bien qu'il n'existe pas d'autre technique que la technique de la fracturation hydraulique. Alors moi je cite toujours Gandhi qui dit au début il vous ignore, puis il se moque de vous, puis il vous combat, puis vous gagnez. Alors là je crois qu'on est déjà dans la phase il vous combat. Donc, comme je suis quand même très optimiste, je dirais on va gagner. Et nous, voilà, c'est ce que je voulais terminer là-dessus, parce que dans tous les combats que l'on mène aux amis de la Terre, il y a toujours ces phases. Et on est déjà dans cette phase. Au début, ils nous ont laissé parler, on était des farfelus, Gazlan, c'était n'importe quoi. Voilà. Donc, on en est là.
Donc il y a toute une série de débats qui sont organisés. Je crois que demain il y en a un aussi.
Pour Toulouse, ça sera la troisième fois. Et moi j'ai déjà animé 10 débats en région, à Cahors, à Couzade, un petit peu partout où il fallait fédérer pour démarrer les... où on me demandait d'ailleurs d'intervenir. Là on refait le point à Toulouse parce qu'il y a eu tous ces événements depuis un an. Puisqu'on avait nous démarré en janvier, il y a eu beaucoup de choses de faites, il y a eu des moratoires au niveau international, il y a quand même plein de pays qui refusent. La Bulgarie refuse, la Suisse refuse. J'avais fait le point, il y a je ne sais combien de pays qui arrêtent. En Basse-Saxe, il y a eu des contaminations de nappes, donc ils font un moratoire. Le Canada est aussi pour un moratoire. Il y a eu quand même 38 000 lettres de citoyens adressées au gouvernement du Canada. Et on pense fédérer tout, parce que c'est international. On voit bien qui est là, ce sont les pétroliers. Ils occupent non seulement notre territoire, mais tous les territoires au niveau mondial. Donc, ils font partout pareil. Hein. L'Afrique du Sud a refusé aussi. Donc, on en est tous au même point. On a fait tous la même analyse.
Et est-ce qu'il y a du coup des liens justement entre les différents collectifs au niveau international ?
Ça commence à se faire. José Bové était allé en Pologne. Les collectifs en Pologne se sont mis en place. Aux États-Unis, ça commence à être mis en place. Et une des dernières choses, c'est Barack Obama qui commence à se dire quand même, faudrait pas polluer. Enfin, faudrait s'occuper de la qualité de l'air pour nos territoires. Et il demande justement que la commission pour l'environnement aux États-Unis fasse des études justement pour dire si c'est possible ou pas de faire une fracturation hydraulique propre. Donc ils s'inquiètent aussi de ça alors qu'on ne les avait jamais entendu parler de ça jusqu'à maintenant. Donc quand même ça bouge et j'espère que... Alors ce que je voulais dire aussi c'est que association, très vite on s'est rendu compte, surtout après notre mobilisation, il y a eu Fukushima. Et on savait qu'après ça, on allait nous dire, vous voulez pas le nucléaire, donc il vous faudra du gaz de schiste. Donc les associations, depuis un moment, réfléchissent au pic pétrolier qui est passé, aux ressources qui sont finies, et le gaz de schiste est une ressource non renouvelable. Dans tous les cas, on arrivera au bout, même si on exploitait tout ce qu'on imagine qui existe, dans tous les cas. Donc, très vite, les associations se sont mobilisées et ont proposé un grand colloque à Laizan, où on a débattu de tout ça pour proposer une transition énergétique et qui n'est pas du tout basée là-dessus, mais sur la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et le développement des renouvelables. C'est là-dessus qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre, il faut aller au-delà. Les associations en étaient déjà là. Nos élus ne sont pas encore à réfléchir à ça, alors qu'on est en train de perdre un temps énorme par rapport à d'autres pays qui le font déjà. Parce que de toute façon, ce sont des ressources finies. Jusqu'à quand on va presser la terre ? Jusqu'à quelle dernière goutte de pétrole et de gaz ? Pourquoi faire ? Après, on n'aura plus rien.
Peut-être juste avant de terminer, si on a deux minutes. Donc, on a parlé de ce rapport qui a été rendu public récemment, le rapport donc de la mission d'inspection voulue par l'État. Mais il y a aussi un décret qui est paru récemment au Journal officiel et qui crée une commission nationale d'orientation et d'évaluation des techniques d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. Bref, qu'est-ce qu'il en est de cette commission exactement ?
Eh ben, c'était prévu déjà dans la loi. Il était prévu qu'une commission allait se mettre en place justement pour, puisqu'on avait autorisé dans la loi les recherches scientifiques, il était prévu qu'il y ait une commission qui regarde d'un peu près les résultats de ces recherches. Mais bon, c'est la vaste fumisterie, parce que dans cette commission, sur 22 membres, il y a 3 membres d'organisations non gouvernementales. Tout le reste, ce sont des industriels, des gens du domaine, des corps de l'État. Ce sont eux qui accordent les permis, qui vous traitent de fumistes quand vous posez les questions, parce que vous n'avez rien compris, bien entendu. Mais voilà, donc c'est, là encore, on s'est fait avoir sur toute la ligne. Donc on a contesté cette commission.
D'accord.
C'est pas possible qu'il n'y ait que 3 organisations gouvernementales qui aient un regard sur ce qui va se passer. Comment on va faire les évaluations si tous les autres sont pros
messagistes. Donc, grosso modo, le prochain, d'un point de vue calendrier, c'est début mai, où on devrait en savoir plus par rapport à ces permis donc de Demirande et de Beaumont de Lomagne.
Alors, c'est pas tout à fait comme ça, parce que la partie instruction, c'est la uniquement l'instruction de l'Adréal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sur la partie uniquement de l'Adréal le vérifie que le pétitionnaire connaît la technique et a de l'argent pour faire ses recherches.
D'accord.
C'est tout. Après, ça passe par une commission, par les ministères de l'Environnement et de l'Industrie, qui, eux, décident si c'est bon ou pas. Et c'est signé par le ministre. C'est comme ça que Borloo avait signé tous les autres permis.
D'accord.
Donc, on peut très bien nous faire mariner encore un moment.
D'accord.
Mais si c'est lancé, il faut bien savoir qu'il y a ce risque que tout le territoire soit concerné. Je rappelle, c'est un permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Et y a, c'est l'IPERH, ça c'est l'IPERH dans la nomenclature, et donc à tout moment on peut nous sortir du chapeau ça quoi.
D'accord.
Donc le délai, nous on va continuer à faire cette vigilance auprès de l'Adréal. Normalement, quand les permis sont accordés, ils apparaissent sur le site de la du ministère. C'est comme ça qu'on a toutes les cartes, avec les délais, tout ça, on a tout ça, c'est comme ça qu'on les a maintenant. Mais on ne les a que quand c'est déjà instruit et que ça passe déjà au ministère. C'est déjà, je dirais, trop tard.
Donc, par exemple, pour voir ces cartes-là, qui sont quand même très parlantes, parce qu'à la radio, ça passe pas très bien, on peut aller voir...
Il suffit de faire une recherche sur Google en disant un titre minier, et voilà, on aboutit sur le site et on peut télécharger les cartes. Les cartes sont mises à jour tous les 6 mois. Mais il y a un bulletin d'information qui paraît tous les mois et qui vous dit où en sont les permis. Qu'est-ce que c'est, par exemple, pour le permis de Cahors? On vous fait une petite carte comme ça où on vous dit qui est le pétitionnaire, combien de temps a été demandé le permis et comment c'est adossé. Donc ça tous les mois, vous pouvez avoir où en année de ça. La carte n'est mise à jour que tous les 2 mois. Mais tous les mois, on va sur le bulletin d'information, le BEPH, ça s'appelle. Là aussi, vous pouvez cliquer BEPH sur Google, vous allez tomber là-dessus.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout, on ne la considère pas fatal. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se tisser des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était les Régors. Chaque semaine, sur l'Égo du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site OC Libertaire et aussi sur le blog Le Chat Noir 51.